C'est le Focus Broadcast saison 5, épisode 3, présenté par Serge Cosmos et moi-même, DJ Quack. Aujourd'hui, nous recevons François Troukens, réalisateur du film Tueur et personnage atypique de notre petit monde médiatique belge. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous tous.
Bonjour François.
Bonjour François. Team 69.
Team 69, on est tous au 69 dans le studio. Alors, toi, t'es le cadet, François, t'es né le 31 décembre.
Ouais, 31 décembre.
Moi, personnellement, c'est le 19 octobre, quoique c'est le 4 juillet.
6 juillet.
Donc, t'es le cadet, mais t'as vécu deux fois plus que nous deux réunis,
ouais,
je pense.
Ça manque pas un âme de femme quand même pour le 69 ici.
Oh, ça commence à prendre l'ami de Damso.
Ouais, moi, les 69 avec les mecs, c'est pas trop mon truc.
Hashtag comme blond et noir de 45 ans.
Balance ton obsédé, soit obsédé, hashtag soit obsédé. Dis, mais c'est vrai, voilà, pendant que nous on faisait du journalisme et pour lui et du punk rock pour moi, toi tu faisais des banques.
Ouais, enfin j'ai pas commencé comme ça quoi.
Ah d'accord.
J'ai commencé d'abord avec un crayon, j'ai commencé à écrire. Moi j'ai fait un écart dans le milieu du grand banditisme parce que je trouve ça fascinant, un peu comme un mec qui est fasciné par la mort et qui te dit tiens, c'est quoi derrière. Et aujourd'hui, on me proposerait d'aller voir derrière, j'irais.
Enfin, moi, je suis fasciné par le grand banditisme, et puis en même temps, j'ai pas passé le cap.
Oui, c'est vrai, hein, on peut être fasciné par des choses, et heureusement, ça peut rester du fantasme, et ne pas passer de l'autre côté de la barrière, comme la mort. Hein, c'est quelque chose qui est on peut fantasmer sur la mort, on n'a pas envie spécialement de mourir pour autant. Mais moi, je suis peut-être un grain quelque part, j'ai envie peut-être de découvrir un milieu qui me fascinait. Et puis là, c'est les choses de la vie qu'on fait ça aussi.
Ça te fascine. La fascination, elle vient des grandes affaires des années 80, parce que dans les années 80, vu qu'on a le même âge, nous avons donc connu en gros la bande de Nivelles, les tueries de Brabant, etc. Mm-hmm. Est-ce que ça vient de là?
Non, c'est plus un banditisme des années 70. Les gabins.
On est en Belgique ici, hein, Georges.
Ouais, c'est le temps. Mais les gabins, les Guérini, les Zemmour, enfin moi, tout ce banditisme-là. Proche de la résistance, des mecs qui avaient, voilà, sur papier c'était du panache et des personnages qui avaient du charisme et qui étaient fascinants. En fait,
sur papier uniquement ?
Sur papier, parce que dans la réalité, quand tu vis et que tu le découvres, c'est pas du tout ça, quoi. C'est un milieu triste, un milieu de mort, un milieu de trahison. Il y a de belles choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses, évidemment.
Les Abrans, ça fait pas bander, quoi.
Ah, Marcel Abrant, c'est un ami, donc je peux pas dire du mal de lui. C'est un mec bien. Moi, je considère que c'est un mec bien. Voilà, il a des principes. C'est un voyou, c'est un gangster, mais c'est un mec qui est peut-être plus respectable que beaucoup de politiciens.
Ça te fait, cette vie-là ne fait pas bander.
Moi, ça me fait plus bander. Moi, je préfère aller passer un dîner avec Abrant qu'avec Berlusconi, par exemple.
Oui, j'imagine
c'est
bien.
Deux voyous différents. Mais il y en a un qui a un code d'honneur, il y en a un qui n'en a peut-être pas.
C'est quoi les belles choses dans le milieu?
La fraternité, le côté camaraderie, ce qui plaît à mon avis, c'est ça, c'est le côté un peu... moi j'ai des grands-parents qui étaient résistants, et ils racontaient toute leur vie, ils m'ont raconté des histoires de la guerre, quoi. Ça les a fascinés, et le banditisme c'est un peu ça. Et je pense que quand tu vis la guerre 40, quand t'es dedans, ça te fait pas bander, mais après, tu racontes, et quand tu racontes, ça fascine les gamins, parce que t'entends tes grands-parents qui te racontent la résistance, quand ils allaient mettre des charges sur les voies de chemin de fer... Quand il te le raconte, c'est sexy, parce que c'est lui qui te le raconte en plus, donc il en est revenu. Et il raconte pas tous les potes qui sont fait attraper, qui ont été torturés dans un cachot, et voilà, c'est un peu ça le grand banditisme. Donc ça paraît, quand tu le racontes, c'est très romanesque. Et forcément, tu racontes, donc c'est différent que de le vivre. Et le vivre, c'est des potes qui meurent dans tes bras, des mamans qui pleurent, quand tu dois aller leur raconter que ton pote s'est fait tuer, ou est en prison. Voilà, c'est ça, le grand banditisme. Puis des trahisons, il y a beaucoup d'argent, donc qui dit argent dit trahison. Donc c'est pas, moi personnellement, c'est pas un milieu qui aujourd'hui me fait rêver.
Il y a beaucoup de morts du grand banditisme en Belgique.
Oui, on a eu énormément
de... phénomène.
Non, on a eu énormément de morts dans les années 2000, surtout dans le milieu liégeois. Donc on comptabilise plus ou moins une quarantaine de personnes qui ont été tuées, quoi. Qui sont entretués, un peu comme en Corse ou à Marseille.
Qui se sont entretués.
Oui, parce que c'est toujours le même problème, c'est que si je bute quelqu'un d'une équipe, tu vas te retrouver avec tous tes amis, sont les amis de tous mes amis, et inversement. Donc c'est une espèce de chaîne sans fin. Moi j'ai plein de potes en Corse qui se sont entretués et qui continuent. Et ils ne peuvent pas faire autrement, quelque part, parce qu'on a buté ton frère ou ton meilleur ami, et si tu ne le venges pas dans cette... c'est l'honneur quoi, qui est en jeu. Et là-bas, c'est important. Tous les gens vivent sur l'honneur, sur le code d'honneur. Donc quelque part, si tu restes dans ton village sans bouger, alors que tu sais que le mec, il est à ta portée, que tu ne le butes pas, tu vas te rejeter de ta... Bon, y a une... voilà, c'est dans les rites... C'est très latin. Hein. En Corse, ça se passe comme ça, en Italie aussi. Et en Belgique, heureusement, c'est un peu plus calme. Il y a eu effectivement pas mal de gens qui ont été tués ou qui sont entretués. Ouais.
Tu en es sorti en tôle. C'est en tôle que tu as découvert les bouquins ou c'est avant la tôle que, avant. Tu as trouvé les bouquins. Et je sais que tu as une ASBL d'incitation culturelle. Pour,
ouais, c'est la crise à libre. Et en fait, surtout en prison en 2014. Donc c'est assez récent. Mais je peux le dire, j'avais rien fait de mal. J'avais engagé Joe Starr dans un de mes films. Et je lui ai proposé un rôle, en tout cas. Et ça m'a été reproché, je n'avais pas le droit de fréquenter un ancien détenu. Et donc, on m'a dit, vous savez qu'il a fait la prison. Je dis, bah oui, comme tout le monde. Bah, donc, vous ne respectez pas les règles. Et j'ai dû aller me présenter à la prison de Forêt. J'ai fait 7 mois. Et là, j'ai découvert d'abord beaucoup de jeunes. Ils ont entré une moyenne de 17 à 25 ans. Des jeunes un peu... désabusés par la société, par la vie, qui en veulent à la société, donc une haine incroyable, un radicalisme dans la haine. Moi, je parle même pas de religion. C'est plus un rejet d'une société. Ce sont des gens qui sont en banc de la société, et en plus là, en prison, ils se sentent encore plus exclus. Et donc, Crise à Libre, ça permet de... Je demande à des éditeurs de bouquins, de DVD, de CD aussi, donc distribués au cinéma, de renvoyer des bouquins neufs.
Mais déjà vendus à disposition.
Après, je m'étais rendu compte de ça à la prison de la Santé, je m'occupais de la bibliothèque. Et en fait, j'avais demandé à Albin Michel ou d'autres, des gens comme Gallimard, de m'envoyer des bouquins de presse. Et en fait, je mettais un petit écrit, j'étais dans la bibliothèque, je mettais ça comme dans une librairie avec un petit commentaire. Et je me souviens d'avoir ce bouquin de Houellebecq, qui est quand même pas un bouquin facile, particulier élémentaire ou
particulier élémentaire.
Et donc, le bouquin s'arrachait. Et je me suis rendu compte que les mecs lisaient ce bouquin parce qu'il était chez Ruquier, chez Ardisson, qu'il était dans les médias. Et du coup, les mecs se sentent concernés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exclus. Et ils parlent à leur gonzesse. Donc ça fait bien dire, tiens, j'ai lu le dernier Houellebecq, ils en parlent à la grand-mère. Et donc j'avais dit à l'éditeur, c'est un bon moyen de faire parler de vos livres et de les envoyer en prison à un lieu d'exclusion parce qu'on va en parler autour, ils vont en parler autour d'eux. Et je trouve ça intéressant. Le livre permet, je pense, de contrer le radicalisme haineux parce que ça t'ouvre aux autres. Le livre, il y a un truc génial au Brésil, et j'essaye de mettre ça en place en Belgique. Si tu lis un livre, tu as droit à un jour de prison en moins.
Ah ouais, bah j'en ferai pas beaucoup, moi.
ouais. Bon, mais j'espère. Voilà, mais c'est vrai que le fait de lire, ça t'ouvre à d'autres cultures et ça te permet de ne pas te radicaliser dans la haine et de respecter les autres.
Ouais. Est-ce que le système pénitentiaire permet de... Est-ce qu'il y a une censure ou bien on peut vraiment commander tous les bouquins? Houellebecq, c'est quand même le dernier sur la France musulmane, là. C'est quand même très polémique.
Ouais, non, ils vont pas censurer, mais ils vont censurer peut-être du manga ultra-violent.
Ah ouais, quand même.
Ou des bouquins d'armes. Ça oui, mais sinon il n'y a pas de censure, j'ai jamais vu une censure. Avant il y avait, hein. Avant tu recevais un journal découpé, t'avais un bricard qui s'amusait à découper les articles en disant ça tu peux pas lire, mais les exploits par exemple de braqueurs, il les enlevait. Mais non, plus du tout. Je vais présenter mon film le 2 décembre à la prison de Vitre, je trouve ça important de dire aux gamins, on vous oublie pas quoi. Vous faites partie de la société, vous êtes puni, vous devez passer un petit temps dans
un cap.
Voilà, mais l'idée c'est après on va vous allez de toute façon sortir, donc autant les réconcilier avant. Moi je dis il faut réconcilier ces jeunes, il faut arriver à leur donner envie de dire tu fais partie de cette société. On t'en exclut un moment, mais tu en fais partie et ne t'attaque pas à la société. Le problème aujourd'hui, ce qu'on voit, et je pense que le terrorisme montre bien, ce sont des gars qui sont passés souvent par la case prison, pas tous, mais en tout cas, la prison c'est le cancer d'une société, donc c'est qu'il y a un mal-être dans cette société. Et on a de plus en plus de jeunes violents. On le voit encore des jeunes casseurs qui... C'est des mecs qui sont dans un mal-être, qui se sentent pas bien dans leur peau, qui ont besoin de ressembler aux autres, ou en tout cas qui veulent être comme les autres, c'est-à-dire avoir du pognon pour pouvoir paraître et avoir un... C'est souvent nourrir son moi. C'est de la reconnaissance personnelle. Et je dis ce qu'il faut, c'est arriver à réconcilier le jeune en lui disant « Mais tu sais, la reconnaissance, tu peux l'avoir si tu deviens un super ébéniste, ou si tu fais un diplôme universitaire, ou si tu fais, je sais pas moi, tu deviens un plombier. » Tu peux te fier d'avoir fait un meuble et de le communiquer, de le partager. Je dis toujours ce qui fait lever un boulanger, c'est parfois simplement la bonne femme qui vient chercher son pain et dit « j'ai fait le détour parce que votre pain, il est vraiment bon, votre croissant, j'ai traversé Bruxelles, c'est les meilleurs, quoi. » Et c'est ça qui fait avancer le monde, je crois. En tout cas, c'est la reconnaissance de ce que tu fais, la valorisation de ce que tu es. Et il faut valoriser ces jeunes, leur trouver... Et moi, je peux comprendre que quand tu habites dans des quartiers défavorisés, ou en tout cas dans des écoles dites défavorisées, en tout cas pas... Et tu te retrouves, on te dit, et si tu réussis pas, tu vas te retrouver en professionnel. Le gamin, il se retrouve en professionnel, ils font démonter un bus. En Suisse, ils travaillent sur des Ferrari. Où ils vont et on va les emmener voir la. Donc on va faire des mécanos, mais qui vont avoir envie de travailler sur la moto de Rossi. C'est différent. Donc tu es fier de ce que tu fais. Tu dis, ouais, je suis mécanicien, c'est super, parce que je fais ci, je fais là. Ici, le mec, il n'a pas envie de se vanter de démonter un bus de 1952, quoi. Mm. Alors, je schématise, évidemment, c'est dans toutes les écoles, mais c'est souvent ça. Et c'est juste. Ces gosses qu'on retrouve en prison, c'est souvent des exclus de l'école d'abord. À 12-13 ans, ils déconnent, ils se retrouvent un peu rejetés. C'est une première exclusion. Et au lieu de les rattraper, mais les éducateurs, d'aller chercher ces jeunes et dire, écoute, t'as un potentiel. Même si t'as pas un QI exceptionnel, bah, tu n'es pas obligé de devenir universitaire ni médecin, mais tu peux être un super ébéniste, un super boulanger, un mec utile dans la société. Tu fais partie de cette société. Et donc, Chrysalip, c'est ça. C'est de réconcilier les jeunes avec la société. Et de leur dire, ben, ok, t'as fait une connerie, mais non, on va t'aider à t'en sortir. Alors, avec des petits moyens, moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens. Alors, on me répond, ouais, il n'y a pas de fric. On est prêt à mettre 130 milliards de dollars pour acheter des avions de chasse pour combattre le terrorisme. Mmh. Ok.
Puis ça ne demande pas tellement d'argent.
On n'a jamais arrêté un jour. On n'a jamais tué un terroriste, je crois, qu'un avion de chasse, ou très peu. Par contre, tous les mecs qui ont fait des conneries, ils sont sortis de nos prisons, quoi. Ils étaient ici. Mmh. Ils sont nés à Bruxelles ou à Paris. Ou pour la plupart, en tout cas. Mm-hmm. Et c'est eux qui, même s'il y en a d'autres qui sont venus peut-être de Syrie ou ailleurs, mais c'est quand même eux qui montent le coup, quoi. C'est quand même des gars qui sont nés ici, hein, qui sont pas... Et donc ça, c'est, pour moi, c'est le reflet d'une... Donc je dis, il faut aider ces jeunes dans les quartiers. Il faut mettre des éducateurs. Il faut qu'il y ait des gens qui les sortent de ce ghetto communautariste aussi, et se replient sur soi, cette envie de faire du mal à la société parce qu'on leur a fait du mal. Et il faut se dire... Alors les gens me disent souvent, ouais, mais on va aider des gens en prison. Moi, j'ai déjà du mal à aider mes enfants qui font l'UNIF. Et eux, on va leur donner un ordinateur. Ils vont aller à l'université, faire des cours. Bah oui, alors, si tu les aides pas, ces gens-là, c'est le reflet de notre société. C'est l'échec de notre société. Donc, tu dois les aider. Tu dois les aider parce que sinon, ils vont se retourner contre nous. Mmh. Si tu as un mec qui sort, qui prend un camion, qui tue des gens comme à Nice, ça fait 140 victimes, bah, je préfère l'aider. Ok, mettre un peu de moyens, tu auras moins en moins de mecs en prison, tu auras moins en moins de gens qui se radicaliseront, j'en suis convaincu. Dans les pays scandinaves, tu prends la Syrie, tu prends la Suède, tu prends la Suède où ils ferment leur prison, quoi. Ils ont, alors qu'en Syrie, on en ouvre, je crois. Mais en Suède, ils ont réformé le système éducatif. Dans les pays scandinaves, Islande, enfin tous ces pays-là, on a tout mis à plat. L'éducation. Chaque jeune est suivi, on observe les différentes intelligences. Ici, on n'en a qu'une. C'est un effet entonnoir. Il y a 10 mecs, il y en a un qui va devenir avocat ou médecin,
Je crois que tout le monde s'accorde à dire que le système éducatif belge, surtout francophone d'ailleurs, est terrible. Hein.
Et alors que la pédagogie nouvelle, pardon, d'application dans d'autres pays, ça fonctionne super bien. Et du coup, moins d'échecs scolaires, moins d'exclus, moins de mecs dans la rue, moins de mecs qui se disent, mais finalement, cette société, il n'y a pas d'horizon, tout ce que je peux faire, c'est être mécanicien ou chauffeur de bus, je vais vendre de la cam et je vais me faire 3-4 000 par mois. Et en fait, tu crois tous que... Ils regardent tous Scarface. Et ils se disent, mais moi, je ne vais pas finir comme lui. Je vais faire comme lui, mais je vais être mieux que lui. C'est-à-dire que je ne vais pas finir avec une balle dans la tête et buter ma sœur et mon frère et mon meilleur ami. Et ils pensent qu'ils vont... Et c'est comme tous les gamins. On est né en 69, on a tous été jeunes et cons. Hein, là, on s'est tous dit, on va faire mieux que nos parents, mieux que nos aînés. Et c'est un peu le cheminement.
Ouais, mon père est flic, donc...
Ah ben voilà. t'as bien tourné.
Donc j'ai pas trop insisté, mais... Ouais. Justement, toi, qu'est-ce qui t'a fait passer? Parce que tu viens quand même d'une famille relativement aisée, d'un milieu culturel aisé. Qu'est-ce qui t'a fait passer du côté braquage, banditisme?
Famille cultivée, c'est différent. Ouais. Moi, j'ai des parents, ils sont partis vivre dans une roulotte, faire la culture biodynamique.
Ouais.
Donc la culture biodynamique, c'est de la biologie, mais... l'homéopathie de la terre.
Je vois ce que ça fait dans le vin, mais je connais pas le reste.
Bon, en gros, c'est Steiner, qui est un philosophe allemand, qui a créé une pédagogie, une médecine et une agriculture, par exemple les produits Velleda, que beaucoup de gens connaissent.
C'est un peu hippie, quoi, on peut dire.
Ouais, pas trop. Je sais pas, c'est très scientifique, en fait. Ouais. Hein. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais tu vas cueillir tes fraises en lune montante, tu vas semer en jour. Donc, si c'est en lune, en quart de lune, parce que sinon, okay, c'est les jours semences, c'est les jours racines, tu vas mettre des. Donc, c'est très. Et donc, il a créé on va dire, médecine de la terre. Et c'est d'application dans les grands châteaux, par exemple, aujourd'hui, tu as des châteaux Margaux, des grands.
Absolument.
Qui sont en biodynamie. Ah ouais. Donc, la différence avec la biologie, c'est juste travailler avec les plantes. Ici, c'est. On soigne la terre avec des méthodes homéopathiques. Alors, on n'y croit pas, ça fait un peu sorcier, ou pour d'autres très scientifiques. Et donc, l'école que je tenais à mettre en place, c'est une. Où la pédagogie, l'agriculture, c'est tourné. En fait, c'est équilibrer la société. C'est difficile à définir en quelques mots. Hein. C'est être en osmose, l'esprit et le corps, en osmose avec la nature et les éléments qui nous entourent. Donc, c'est toute une philosophie. Et donc, mes parents sont partis avec une roulotte, cultiver des légumes bio. Et donc, oui, c'était pas facile financièrement. Donc, on vivait pas riche. Okay. Mais on vivait de manière qualitative. Donc on avait les bons légumes. Par contre, c'était une exclusion par rapport à l'autre société. Le regard des autres. Mes grands-parents, ma famille, c'était. On était végétariens. On était des gosses en danger, quoi.
C'est vrai que tu as l'air malingre et
ouais, voilà.
Et souffreteux.
Et aujourd'hui, être vegan, c'est super à la mode. Mes parents sont radicalisés dans le bio et alors, je suis pas devenu braqueur à cause de ça, c'est peut-être l'exclusion, ouais, le fait, un peu comme les gamins dans les quartiers. Moi, j'étais à Marseille projeter le film il y a pas longtemps, dans les quartiers de la Morlaix, des quartiers vraiment où tu rentres pas. Les gamins, c'est des exclus, mais ils sont tellement exclus, tu leur dis, mais tiens, moi je trouve ça naturel. Tu leur dis, et tu fais quoi le week-end? Tu prends ton vélo, tu vas à la mer, c'est super, tu habites à Marseille, tu vois la mer au loin. Ah non, ah, pourquoi? Ah, parce que, en fait, il faut prendre un bus, échanger trois fois, ils mettent une heure quart pour aller à la mer qui est à 10 km parce que c'est mal foutu. On fait exprès de leur mettre des bus qui vont pas dans le centre-ville pour qu'ils ne descendent pas dans la ville. Et donc, tu as une exclusion et les gars, ils se sentent même pas bien sur la plage. Parce que la plage, bon, ils vont deux fois et puis faire la plongée, mais ça les excite pas plus que ça. Alors que nous, je pense, à notre âge, on aurait pris un vélo, on aurait tracé jusqu'à la mer, j'aurais fait de la plongée le matin au soir, j'aurais été voir les filles sur la plage. Enfin, je sais pas, c'était un truc naturel et eux, pas. Et ils vivent comme ça dans un ghetto. Et donc, je pense que la vie que j'ai vécue, C'était différent. J'ai eu une enfance fabuleuse, agréable, au milieu de la nature. J'ai vraiment pu grandir dans cet univers-là. Mais en même temps, face aux autres, j'étais différent. Parce que tu vis c'était une société où les gens étaient habillés avec des marques. Et en plus, très visibles, genre du Millet, Chevignon, et donc je ne vais pas les citer. Mais bon, voilà. Et après, j'ai toujours dit, si j'étais né au temps de la mode grunge, ça aurait été génial que tu mettais un peu toutes les fruits de tes grands-parents, c'était bon. Quoi.
C'est quoi le premier geste, le geste fondateur pour toi qui te fait basculer vers...
C'est... parce qu'en fait, bon, j'ai lu sortir un bouquin qui fait 430 pages pour essayer de raconter ça, il s'appelle Armée de résilience, mais c'est une succession de choses, en fait. Et un jour, je me réveille, je me dis, bande enculée, je parle des banques, du système, et j'en veux au système, je dis... En fait, moi, ma vie, il n'y a pas d'horizon. Quoi. Et à ce moment-là, je suis garde-corps, j'ai travaillé pour des gens qui ont beaucoup d'argent, des hommes d'affaires, des hommes politiques. Et puis, à un moment donné, je me retrouve comme détective d'hôtel au Sheraton avec un salaire de merde. Et je me dis, j'ai raté ma vie. Et en plus, je me suis, par opposition paternelle, je me suis engagé, j'ai voulu devenir garde-corps, j'ai voulu faire une formation paramilitaire pour justement, parce qu'il était antimilitariste, c'était une manière de m'affranchir. Mon père était non seulement agronome, mais en plus chanteur d'opéra. Donc c'était vraiment antimilitariste, plutôt anarch, quoi. Et là, je fais tout à fait l'inverse de ce qu'il imagine de mon devenir. Il me dit, tu rates ta vie. Et il a raison. Hein. C'est ça que je disais, j'étais un jeune con, quoi. Et tu te dis, ton père, c'est un vieux con quand t'as 18 ans. Et mon père imaginait que j'allais faire le conservatoire, je faisais de la musique, et que j'allais faire une carrière dans la musique, et que j'allais... Voilà, et en fait, on va tout péter. Je fais une première année d'école de photo, je veux être réalisateur, je veux faire de la photo et des vidéastes. Et puis en fait, j'en vais tout péter pour rentrer, faire une formation paramilitaire de bodyguard. Quoi. Un truc complètement débile. Et tu vois l'aventure, tu dis, je vais voyager, je vais faire le tour du monde. Ce qui, c'est vrai, en fait, j'ai commencé pendant 3 ans. Tu voyages en jet privé, tu vas dans des beaux hôtels, des beaux restaurants, tout ce que j'ai pas pu vivre étant gamin. Et le jour où ça s'arrête, c'est un peu revenir la queue entre les gens, dire à ton père, finalement, t'avais raison, j'ai raté ma vie. Mais j'ai pas fait les études que je devais faire, et en fait, je me sens pas là où je dois être. Et le seul boulot qu'on me propose, c'est du boulot de gardiennage ou du boulot de détective d'hôtel au Sheraton. Là, je dis bande d'enculés, quoi, j'en veux la société. Bon, après, j'ai perdu mon boulot en tant que garde-corps parce que mon boss s'était retrouvé en prison pour une magouille. Et donc, il n'a pas fait beaucoup de prison. Je me dis, finalement, quand tu as un bon avocat, que tu as des appuis politiques et que bah, c'est très facile, quoi. Comme un jeune aujourd'hui, je dirais, tiens, regarde, la reine d'Angleterre nous dit, alors, cette année, vous allez tous vous serrer la ceinture, et puis tu découvres qu'elle met son fric à Panama, quoi. Et donc, le Panama Paper, c'est ça, tu as des jeunes qui se disent, finalement, moi, je suis un con, je vais payer mes impôts, je dois marcher dans le rang, mais les mecs au-dessus, ils font tout le contraire de ce qu'ils nous disent, quoi. Et ça, moi, ça me révolte, en fait. L'injustice me révolte. Alors, je dis pas que c'est à cause de l'injustice, mais c'est des raisons qui font que, comme je pourrais dire, j'ai lu Crime et Châtiment de Dostoïevski, et tu te dis, bah, le passage à l'acte, il est justifié. c'est une foule de choses, et un jour, je me réveille, je me dis, tiens, je commence à réfléchir, je me dis, je vais me faire engager dans le transport de fonds pour étudier leur système de sécurité, de trajet, etc., avec l'idée de faire un casse. Mais un casse de l'intérieur, j'avais lu Spadjari, j'avais trouvé l'histoire géniale, mec qui fait un tunnel, qui va piquer le fric, et sans Inde, sans violence, sans armes. Et j'ai fait pareil. Sauf que j'ai oublié un facteur, le facteur humain. C'est comme, j'ai toujours un complice, c'est comme une amoureuse, quoi. Quand tu la rencontres, t'es prêt à te marier, c'est pour la vie. Et à un moment donné, tu te réveilles et ça devient peut-être ta pire ennemie, quoi. Ou tu deviens son pire ennemi, parce que ça peut être dans l'autre sens aussi. Mm. Et donc là, le facteur humain, c'est quelque chose qui n'est pas... tu sais jamais comment ça
pas
va
évoluer. Fiable, quoi.
Et donc, ouais, je me suis fait balancer, quoi. Comme dans toutes les histoires classiques, quoi. La trahison, c'est un truc humain, c'est séculaire, c'est... c'est déjà dans Homère ou Ovide, hein. Et donc voilà, et je me retrouve en tôle, et là, pendant 7 jours, je me suis dans un cachot. C'est là où le basculement, je crois, fondamentalement. Et c'est ça que je milite aujourd'hui pour que la prison change, parce que les 7 jours de cachot m'ont vraiment fait mal. C'est-à-dire que t'es face à un mur, t'as rien, t'as pas de lumière, tu te rends compte, t'es isolé des autres, t'es tout seul dans cette pièce de béton, et tu dis, je vais passer 4, 5, 10 ans dans ce trou, quoi. Je pourrais jamais tenir, en plus je suis un mec qui grandit dans la forêt, dans la nature, tu vois, c'est le monde, c'est un monde horrible. T'as l'impression que les murs t'étouffent, que tu rentres dans un cercueil, quoi. T'as même plus le droit de voir la nature, tu vois même plus le soleil parce qu'il y a des barreaux, des grillages qui t'empêchent même d'avoir la lumière naturelle. Et donc, évidemment que c'est de ta faute, mais moi je me disais, mais putain, j'ai rien fait de grave, quoi, j'ai juste piqué du fric. Ça mérite pas d'aller en prison pour moi. Je me rends pas compte que je fais quelque chose de grave. Et en fait, y a personne qui vient de parler, en fait. Et dans ta cellule pendant 7 jours. Et puis un maton qui ouvre la porte un matin, et je dis toujours, il me le réouvre la porte en disant, bon, maintenant t'as compris ta connerie. Alors tu rends le pognon, tu vas être puni, mais tu retournes à l'université et tu fais ton diplôme de réalisateur ou autre chose. Mais si tu fais la moindre connerie, la moindre incartade, tu reviens dans ce trou. Et je peux te dire que je serais sorti de là, j'aurais serré le cul, je me serais dit, bon, plus jamais je reviens en prison, quoi. Et j'aurais... J'aurais vraiment, je pense, travaillé comme un dingue pour obtenir un diplôme et quitter ce milieu-là. Et là, au bout de 7 jours, on ouvre la porte et on me dit, tu vas aller à la promenade? Et je me retrouve sur la place Flagey. Ben, c'est un peu taré sur la place Flagey, c'est une grande cour avec plein de 300 mecs qui sont là. Tous des mecs, évidemment, qui ne viennent pas de Sciences Po et qui te disent, c'est pas mal ce que tu as fait, mais on peut faire mieux. Et je te présente un tel, je présente un tel. Et toi, tu arrives dans une cour de promenade, c'est un peu... Je fais un parallèle avec le cinéma, c'est comme si t'es figurant, t'arrives et il y a Depardieu qui vient vers toi, qui te dit c'est bien ce que t'as fait, je vais t'apprendre à jouer. Voilà, parce que dit, t'es un petit comédien, mais ouais. Nous on va t'apprendre ce que c'est que jouer vraiment. Et moi je suis fasciné par ces mecs. Et là je commence à lire des bouquins sur ces mecs. Et donc quand tu te rends compte aussi que ça rejoint un peu le monde de la résistance, tu dis, on tombe dans la fable. Les frères Guérini qui ont permis la résistance, qui ont permis le débarquement des Américains en Provence, c'est excitant. Et donc tu as l'impression que c'est des voyous qui ont un adresse incroyable. Moi, j'ai rencontré Francis Lebel, c'était un mec qui avait une gouaille, c'était un ministre, quoi. Toujours sapé comme un milord, il parlait bien, il avait une connaissance incroyable de la littérature, il avait lu énormément en prison, mais il connaissait des gens comme Delon, donc il connaissait des ministres, il connaissait des gens avec qui, tu vois, des avocats.
Pasqua, non?
Ouais, par exemple, mais Pasqua n'est pas, pour moi, vraiment le reflet d'un mec d'une gueule de voyou, il parle comme un voyou. Mais quelque part, c'est vrai que c'est excitant en tant que, de se dire que tu rencontres un mec qui, finalement, en son carnet d'adresse, il peut parler avec Mitterrand, il peut parler avec Gaston Defer, voilà. Roland Dumas, enfin, tu te dis...
Il y a encore de la place pour la fable?
Pour la femme?
Pour la fable.
Ah, pardon.
Maintenant, il y a encore de la place pour la fable?
Tu veux dire aujourd'hui, actuellement?
Oui. Est-ce que il y a encore une vraie fable dans le milieu? Parce qu'effectivement, il y a cette idée de post-seconde guerre mondiale des grands bandits,
ouais,
de la résistance ou de la collaboration, puisqu'il y a eu aussi de la collaboration du côté du grand banditisme, etc. etc. Mais est-ce qu'il y a encore de la place dans l'imaginaire collectif pour une fable concernant le grand banditisme ou...
En tout cas, celui que j'ai connu n'existe plus. Et après, je peux passer aussi comme un... Voilà, je suis peut-être trop vieux maintenant pour me rendre compte de ce que c'est que le banditisme actuel dans les petits criminels de 20 ans, qui, eux, vont dire, mais non, nous, on a un banditisme à nous. Mais je pense que, la vision que j'en ai, ça me plaît pas, c'est très violent. Quand tu vas à Marseille et que tu vois les gamins qui s'entretuent à la coup de calage pour des morceaux, pour des histoires de 200 grammes de shit, quoi. Et ça n'existait pas. La violence est plus importante. Elle est plus violente, mais parce que notre société est plus violente aussi, je pense, que nous, on était... Moi, j'ai été éduqué par des voyous à l'ancienne qui avaient un code. Alors, les gens disent, le code d'honneur. Comme la mafia, tu vois. Quand tu rentrais dans la mafia avant en Italie, il y avait des codes, tu respectais, il y avait une hiérarchie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et même la mafia italienne est remplacée par la mafia albanaise. Pour des mecs, c'est juste le fric, c'est ça. Le respect, c'est le fric. Plus tu payes, plus on t'existe. C'est celui qui paye le plus. Et à la limite, le mec, il te dit, j'ai un contrat sur ta tête, mais si tu me payes le double, je bute le mec, mon commanditaire. Avant, ça n'existait pas, ça. Donc, c'est une violence qui est complètement différente. Il y a la CAM qui a tout renversé, qui a révolutionné les choses. Aujourd'hui, les gosses, les gamins, ils braquent plus. Ils vendent du shit, quoi. Ils vendent de la coke. Et ça rapporte beaucoup plus. Et donc, le banditisme tel que j'ai connu, le côté aller avec un calibre, chercher la fraîche, comme on disait, donc aller chercher l'argent derrière le comptoir, il y avait un côté, il fallait des couilles, quoi, quelque part, tu vois, c'était le côté un peu comme ça, tu transpirais avant, là, tu te disais j'y vais, et puis tu y allais, tu risquais de te faire tuer, quoi. Il y avait un truc c'était respectable entre nous. Vendre du shit, c'est plus facile, quoi. C'est des commerçants, c'est plus la même chose, en fait. Mais d'autres diront peut-être, j'en sais rien, hein. Peut-être un gamin va te dire, moi, je suis en plein dans ma fable à moi. Mais en tout cas, moi, le banditisme qui me faisait bander, c'est pas celui-là. Et ce qui représentait, c'était pas celui-là. Et ce que j'ai découvert n'était pas ça non plus. Parce que ça, quand tu te retrouves tout en haut, tu te dis, bah oui, il y a quoi. Tu te rends compte que c'est extrêmement violent quand même, que tous tes potes meurent l'un après les autres, qu'ils sont en prison pour des longues années, et qu'à un moment donné, ça disparaît, quoi. Donc il faut se réveiller et se dire, bah. Moi, j'avais pas envie de finir à 80 piges en prison, quoi. J'avais pas envie de finir ma vie à être un voyou, à être résumé à ça. Pour moi, c'est une expérience de vie. Ça n'a pas été long, hein, mais quand je regarde, c'est 10 ans, quoi. C'est 10 ans de voyoucratie, dont 7 ans de cavale, quoi. Enfin, et après, je fais encore 10 ans de prison, mais au total, j'ai perdu quand même beaucoup d'années de ma vie à ça, mais c'est pas une grande... J'espère que le cinéma sera plus long, quoi.
Ben c'est ça, le réveil justement, c'est le retour à ce que tu aurais voulu faire au départ, si je comprends bien, c'est-à-dire être plus créatif.
Ouais, maintenant, complètement.
Maintenant, tu écris, tu réalises, tu scénarises.
Ouais.
Puisqu'il y a eu deux BD.
Deux BD en total. Là,
deux BD, deux courts-métrages.
Ouais, un long métrage.
Un long métrage à venir.
Voilà.
Et un bouquin.
Et un bouquin que j'ai écrit seul, voilà, que c'était important pour moi de... Et là, grâce au bouquin, j'ai signé chez Plon un roman. Donc, quelque part, la plume, à travers ce livre qui est imparfait, parce que quand tu réécris, en plus, tu dois écrire ta vie, c'est difficile de se départir. Tu dois rester dans la réalité, donc c'est pas facile. Un roman te permet d'aller plus dans la fable. Et donc, ça me plaît, en tout cas, oui. Mais c'est 17 ans de travail aussi. C'est-à-dire que depuis 2001, je travaille une résilience, une envie de changement et d'aller vers ça. J'ai commencé, alors c'est marrant parce que j'étais en cavale, j'avais une maison d'édition avec des faux papiers au Luxembourg et j'ai édité une BD que j'avais scénarisée en partie et qui était un album de la collection Horizon Blanc qui était édité au Lombard et j'en ai sorti un album. Pourquoi ? Parce que ça me permettait d'avoir une couverture. Parce que quand t'es en cavale dans les pays étrangers, on demande ce que tu fais. J'ai dit que c'était scénariste, ça passe très bien en fait. Les gens se posent pas trop de questions, t'as une BD à montrer, donc, et j'avais un pseudo, et ça marchait bien. Mais donc c'est depuis 2001, en 2004 je me retrouve en prison, à la prison de la santé, et là je décide de changer, et de faire ma licence en lettres, et d'avancer, Donc c'est 17 ans de vie pour arriver aujourd'hui à ce résultat-là. Donc c'est énormément de travail, mais de détermination aussi, de persévérance. Et je dis toujours aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Parce que j'ai accompli un truc. Le livre aussi permet de mettre un point final et à un moment donné de dire, j'espère que dans 3 ans, mon prochain film, ou dans 2 ans, je viendrai parler de mon film. Et que je dirais aux gens, lis mon bouquin et raconte ce que tu as envie, mais c'est dans le livre. Et que, évidemment, je pourrais parler de mon association, je pourrais parler des problèmes de société. Parce que le cinéma, c'est faire de la politique. C'est aussi une manière de... À travers mon film, on parle énormément de prison. Chose qu'on ne fait jamais dans une émission. La prison n'intéresse personne, ni le politique. Parce que c'est quelque chose qui est pas vendeur, en fait. Et donc, à travers le film, grâce à ça, je peux parler justement de ces problèmes de prison, de problèmes de radicalisme en prison, de ce rejet de certaines personnes qui vont revenir de toute façon dans la société et qu'on aura tout raté si on ne s'intéresse pas à eux.
Il y a un exercice, j'imagine, qui doit être doublement fastidieux. C'est l'exercice promo, à savoir, je sais que tu as un planning super chargé et que comme le parcours est largement atypique, forcément, on y revient souvent. Ce n'est pas doublement confrontant.
Ben si, c'est même à la limite presque chiant. Je dis toujours, j'aimerais qu'on me parle que du cinéma, évidemment, ou de sujets qui m'intéressent, mais ma vie en soi, quand tu l'as raconté 10 fois, et puis le truc, c'est que ça fait 2 ans et demi que je fais de la télé en Belgique, et donc je pense que j'avais passé ce cap-là. J'avais déjà expliqué tout ça avant, et là maintenant, je refais la promo en France, et on ne me connaît pas. Donc les gens me découvrent en disant, tiens, je suis un ovni, quoi. Un mec qui fait du cinéma, et qui fait de la télé, et qui a fait... 10 ans de tôle, c'est un ancien braqueur, donc forcément ça excite les médias français. Mais là, je suis obligé de réexpliquer, raconter, je me confronte aussi à un public qui me découvre.
Comme et... chez nous, quoi.
Pardon?
Comme ici.
Ça ouais, excite, comme ici. Mais ça excite tout le monde. Enfin voilà, le parcours en soi étant tellement atypique, forcément, ça. Forcément,
oui, mais je dirais qu'en Belgique, ça fait quand même pas 2 ans que les gens me connaissent en tant que je dirais, animateur télé ou. Et même peut-être en tant qu'auteur, parce que j'ai déjà fait des festivals avec mon court-métrage, etc. Donc là, aujourd'hui, je suis obligé de. Reparler de ça. En même temps, José Giovanni, qui était un ancien braqueur et
réalisateur,
un peu collabo aussi à un moment donné, je crois. Il a eu quelques. Enfin voilà, il a eu quelques petits problèmes dans les années 40 et c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire du cinéma parce qu'il a réussi à quitter la prison pour devenir un auteur et un grand réalisateur. Et je pense qu'il a fait des films marquants. Et moi, c'est lui qui m'a donné envie et qui m'a dit, je me suis dit, s'il peut, pourquoi pas moi? Et ça, je pense que je reçois énormément de messages de gens qui me disent. Vous me donnez envie, quoi.
Si c'était des vocations.
Ouais, des gars qui disent, et même pas que des gars qui sont en toule, quoi. Des gens qui sont malades, qui sont handicapés, qui disent j'ai envie de me relever. Des gens qui ont perdu leur boulot, qui me disent, tu me prouves qu'on peut y arriver.
Est-ce que tu te vois faire d'autres films ou d'autres bouquins que sur, justement, le banditisme, la prison Giovanni, finalement, dans sa vie et dans sa carrière, elle a fait énormément de classiques, énormément de très bons films. Ça restait toujours sur des thèmes de bandits, etc., non ?
Je t'avoue que le cinéma de genre... en même temps, j'aime pas dire cinéma de genre, parce que c'est ce qui est paradoxal, c'est vraiment, on va dire, je fais du cinéma de genre, mais si Villeneuve et Sicario, on va parler de cinéma.
Ouais.
Alors que c'est du cinéma de genre.
Ouais, voilà. Absolument.
Ouais. C'est une manière de te mettre dans une case, comme les gens qui font du rap. Moi, je dis, ils font de la musique. Et après, oui, on peut dire que c'est un style musical, mais voilà. Et c'est une manière de dire, ah, toi, tu fais pas de la musique, tu fais du rap. Toi, tu fais pas du cinéma, tu fais du cinéma de genre. Ben non, je fais du cinéma. Voilà. Et oui, je pense que... Après, je pense que le polar, c'est génial parce que ça te permet de raconter la société sociale. Et je dis toujours, on arrête la vie de quelqu'un. Donc quand je fais des émissions criminelles, c'est pareil, on arrête la vie de quelqu'un qui est... Tu vois, tout se passe bien, puis boum, on va le disséquer, quoi. On va disséquer sa vie, son temps, ce qu'il a vécu juste avant. On va savoir ce qu'il a mangé une heure avant. On va aller même autopsier ses intestins. On va savoir toute sa vie, quoi. Et on va savoir même son côté noir. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, il va t'offrir que les palettes qu'il a envie de t'offrir. Quand tu as quelqu'un qui se fait assassiner, bah, ou qui se fait violenter, on va savoir s'il trompait sa femme, si le mec était homo, il avait caché, s'il était... il avait des rendez-vous secrets et tout ça va être... et c'est ça qui excite les gens, je crois, ressort, que c'est tu on déballe tout, quoi, quelque part. Et quelque part socialement aussi, si Menon disait à travers ces petites histoires ces histoires de polar, ben il racontait la vie, quoi. Il racontait ce quotidien et il racontait des choses qui étaient fascinantes. Après, moi, je pense que oui, je peux écrire d'autres films, mais mon prochain long d'ailleurs n'est pas spécialement dans le banditisme. Et c'est une manière aussi de montrer que je peux faire autre chose. Je pense qu'un jour, je pourrais faire une histoire d'amour, pourquoi pas. La comédie, je pense que j'aime la comédie noire. Donc moi, je suis un fan des Cohen, et c'est plutôt dans ce genre-là que j'irais. Mais, donc ce serait ou Tarantino, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Mais après, la comédie pure, je pense pas. Mais après, voilà, j'aime ce cinéma-là aussi. Hein. Moi, je suis un fan de Catherine Bigelow, qui fait Point Break. C'est pour moi un film qui est magistral. et je trouve, voilà, c'est réalisé
absolument,
par une femme.
Absolument, on en rigole, mais c'est un terrible film. Quoi.
C'est un des meilleurs films que je connaisse. C'est réalisé par une femme. C'est génial, ça m'a donné envie
de devenir
acteur.
Il a un peu été ridiculisé par Brice de Nice, mais bon.
Ouais, voilà, et puis encore par le nouveau Point Break que je n'aime pas du tout.
Ouais, ouais.
Mais ce qu'elle raconte, c'est la philosophie du braqueur. Ouais. C'est ça qui me donne envie de devenir braqueur. Hein. Quand je regarde Point Break, je dis putain, mais c'est les mecs qui braquent pour aller faire du surf et pour être en osmose avec les éléments. Il y a une dimension écologique et philosophique qui est super intéressante. Et tu vois ce flic qui finalement tombe complètement amoureux de leur philosophie, qui sent tellement bien que ces mecs qu'il a plus envie d'être flic, quoi. Et je trouve que la fin est magistrale, quoi.
C'est l'anarchie ultime, le banditisme.
Ouais, c'est sa transgression, le fantasme.
C'est la transgression.
Mais les gens sont fascinés par ça.
Et l'anarchie, vraiment.
Complètement.
Parce que quand tu lis des grands livres sur le vol et tout ça, il y a limite une dimension, limite philosophique, j'ai envie de dire à ça. De transgression, de non-respect de ce qui est l'institution par excellence pour l'instant, à savoir la propriété privée. C'est ça pour
oui,
toi
c'est ça.
Encore maintenant.
Évidemment.
Ok.
Et aujourd'hui, dans notre société, tu ne peux transgresser les règles que de manière où tu deviens un voyou, ou peut-être tu trompes ta femme, c'est le seul truc qui te laisse encore. Mais si tu transgresses les règles, tu deviens un voyou, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu passes tellement, t'es de l'autre côté du mur que tout est possible, quoi. Il y a plus. Et je pense que c'est le fantasme. Et beaucoup de gens, tu les entends discuter au bord dans les bars, je les entends, moi, si je peux faire un casse, et qu'il n'y a pas de sang, pas de violence, et que personne. Voilà, j'adorerais faire ça, parce que c'est une manière de louer. C'est jouer au loto avec les numéros gagnants, quoi. Mais après, ce que tu sais pas, c'est que tu vas perdre d'une manière évidente. C'est sûr que tu vas perdre. Il y a personne, je connais aucun mec qui a réussi à devenir riche et à finir sa vie de manière confortable et complètement oublié de la vie. Il y en a très très peu. Mais c'est en général, même Spaggiari a fini dans un camping-car avec un cancer et en cavale en Italie avec tout le fric qu'il avait. Il savait pas, il pouvait plus vivre tellement il était pourchassé partout. Les mecs qui ont fait l'attaque du train de Londres, c'est pareil. Ils ont fini
avec les Sex Pistols.
Ouais, voilà. Quelque part, c'est excitant dans le fantasme. Je pense que dans le cinéma, ça fonctionne bien. Parce que c'est la transgression ultime. Tout le monde rêverait d'avoir un gun et de pouvoir aller braquer une banque, je pense. C'est marrant, j'ai fait un truc avec Marshall qui était flic et il me disait, moi, j'aurais rêvé de savoir ce que ça fait, quoi. Mais tant que c'est dans le fantasme, ça va. Après, dans la réalité, tu sais que tu mets des balles dans ton flingue, tu peux tuer quelqu'un. Tu sais jamais comment ça va finir. Tu sais jamais si... le gérant, il n'aura pas un calibre caché, tu ne sais pas si les flics ne vont pas intervenir, et si ça passe mal, tu fais quoi ? Là, tu passes du côté romanesque à criminel. Et ça, c'est nettement moins sexy. Hein. Parce que ça, c'est indéfendable.
Ouais. Nous, la première fois qu'on a entendu parler de ce projet de tueur, c'était, on était un peu plus haut avec Sourire. Et c'était quand on commençait ce broadcast, donc il y a 4-5 ans. Ça prend combien de temps de réaliser ?
Bah, Sourire, c'est un personnage qui...
Ce film tueur, et parce qu'il était super chaud.
C'était il y a 5 ans. À peu près.
C'est vrai ? Donc ça s'est passé comment, la genèse de ce truc
J'avais écrit en cellule un traitement, donc c'était presque un roman. Avec l'idée, j'avais envie de raconter une petite histoire de braqueur, mais à l'ancienne, avec des codes, etc. Et je trouve ça intéressant. J'avais vu La bonne année de Lelouch. Avec Lino Ventura, j'ai envie d'un personnage comme ça, avec du charisme, du panache. Et un mec auquel on s'attache parce qu'il a des valeurs. C'est un voyou, mais oui, mais c'est pas un mauvais voyou. Et ce que je dis toujours, ce qui m'intéresse, c'est de dire, c'est pas parce que t'es gangster que t'es un mauvais gars. C'est pas parce que t'es un homme politique que t'es un mec bien. Si je prends Berlusconi ou d'autres, sans vouloir stigmatiser lui, mais je veux dire, tu peux... c'est pas parce que t'es ministre que t'es un mec bien. Quoi. Ou ni avocat, ni juge, ni notaire, c'est pas pour autant que t'es un mec bien. Et je trouvais ça intéressant de prendre un personnage noir et d'en faire pas un héros, mais un personnage auquel on peut s'attacher et raconter une histoire. Pour ça, j'avais besoin d'une histoire plus importante en toile de fond, les tueries du Brabant, qui m'ont marqué. Et donc, j'ai commencé à écrire ça en cellule, puis j'ai rencontré Sourire parce que c'était l'agent de Joestar. Et je lui ai dit, tiens, est-ce que tu peux lui faire lire ? Et il est revenu en me disant, écoute, j'adore le truc, je suis fan de l'histoire, et est-ce que tu es d'accord ? J'allais le présenter à un producteur. Et ça commence comme ça, en fait. Et 10 jours plus tard, je signe avec Versus, avec les Broncars. Sourire avait présenté le projet. Et on avait déjà un projet aussi avec Sourire. Moi, j'avais dès l'écriture, c'était très musical. J'avais un son urbain dans la tête. Je voulais que le film soit porté par la musique, que l'émotion soit portée par la musique. Donc forcément, Sourire étant un gars qui fait de l'arrangement musical aussi sur plusieurs films, c'était la personne à indiquer. Et donc j'ai commencé à bosser avec Versus, et puis j'ai eu 7 mois d'arrêt avec l'affaire Joestar, donc ça a retardé un peu le projet. Mais il faut compter, il faut compter 5 ans pour monter un film. En tout cas, à ce moment-là, je pense que ça va peut-être aller plus vite, parce que si tu as un film qui plaît, si la presse est positive et que tu sens qu'il y a... Voilà, on vient de chercher, c'est plus facile évidemment que d'aller chercher les autres.
D'une notoriété à l'autre, parce que t'es passé d'une notoriété un peu corrélative à ton activité précédente, à cette notoriété-ci. Tu n'arrêtes pas de donner des interviews, t'as ta tête plus ou moins partout, on t'entend partout, d'une notoriété à l'autre.
Ouais, comment je m'étais toujours juré de quitter les faits divers pour aller dans les pages culture. Et donc c'est jouissif d'être dans les pages culture. Ouais, voilà, en soi, ça j'ai réussi.
Et donc, pour revenir à ça, c'était la vraie vocation au départ, avant l'entrée à l'armée.
Mais complètement. C'était que je rejoins enfin. J'ai reçu un SMS de mon père. J'étais à la Mostra de Venise présenter le film où il m'a dit: on est fiers de toi. Et rien qu'en parler, j'ai l'émotion parce que c'est un truc important. Quand tu peux dire de ton vivant que ton père est fier de toi, j'ai transgressé le père, quoi. Tu vois, j'ai réussi, quoi. Et j'aurais dû faire ça avant. Mais. On est souvent porté comme ça toute notre vie par des choses qui t'animent et tu ne sais pas ce que c'est. C'était ça, en fait, peut-être. C'est une manière d'avoir la fierté de tes parents et de dire. Des gens autour de toi. Enfin, c'est la reconnaissance, hein, la valorisation de soi. Et donc, oui, c'est ça qui me porte. C'est l'envie aussi de raconter des histoires d'abord. Partager, échanger. J'adore aller montrer mon film. Moi, je vais aller à Virton, au Festival de Virton. J'ai autant le plaisir de le montrer à la Mostra. C'est des rencontres avec des gens, c'est du partage, c'est de l'échange. Tu te nourris énormément de ça. Et c'est ça qui me donne envie d'écrire, c'est le partage. C'est magique. Quand tu fais une soirée, c'est gai de voir les gens danser devant toi.
Ah oui,
si t'as personne qui danse, tu te fais chier. Quoi. Absolument. J'ai loupé. Et ce qui est chouette, c'est le partage, en fait. C'est quand t'es journaliste, t'écris un papier, les gens te disent: j'ai bien aimé ce que t'as écrit. Et tu sens...
Moi, j'aime bien qu'on me dise qu'on n'aime pas aussi.
Mais bon. moi aussi.
C'est tout pour aussi. Lui, il est particulièrement querelleur, tu vois.
Ah ouais. Non, mais j'aime bien qu'on me dise qu'on n'aime pas si t'as une critique qui est constructive. Ah. Si tu dis « j'aime pas »,
oui, mais ça me va aussi.
Est-ce que mon article est trop long? Ou que j'ai pas été dans tel sujet, etc. Moi, je peux accepter des critiques... je cherche la critique positive, quoi. La critique où on dit: tiens, pourquoi t'as pas fait ceci? Alors, soit je l'explique, et j'ai des raisons, et je peux l'expliquer pour telle et telle raison, ou parfois non. Parfois je dis non, je ne suis pas d'accord. Si je voulais que ce soit comme ça, et t'as le rouge, moi j'aime le bleu, j'ai fait du bleu, quoi, voilà.
Alors on n'a pas vu Tueur, parce qu'il sort la semaine prochaine.
Décembre.
On n'a pas...
Saint-Nicolas,
avec une croix. On n'a pas eu l'occasion d'aller à la vision presse. Par contre, moi j'ai checké l'Instagram du tournage, et j'ai remarqué qu'au début ça s'appelait Tueur, la stratégie de l'attention.
Ouais.
Et puis ça, c'est parti.
Parce qu'au début, j'avais écrit ça, ça s'appelait Tueur, toujours appelé Tueur. Et puis il y a eu les attentats, les gens ont eu un peu peur. Et donc j'ai dit, je vais rajouter la stratégie d'attention pour rendre le film, pour casser le mot Tueur, en fait. Et puis en fait.
Ça rajoute un côté strictement politique.
Ouais, ce qui est intéressant en soi, parce que le film, il y a quand même une dimension politique, je pense.
Et la stratégie de l'attention, pour ceux qui ont oublié, c'était quand même. C'est une théorie. Pas tellement de conspiration qui attribue les attentats des années 70 et 80 en Italie à une tentative de déstabilisation du pays par peut-être la CIA. Quoi.
Ah non, en Italie, c'est une certitude.
Ouais, les services secrets italiens. Ils en débattent encore, mais.
Ouais, mais les services secrets italiens ont posé une bombe à la gare de Bologne, ils ont tué 84 personnes pour accuser l'extrême gauche pour que les gens votent à droite. Ça, c'est avéré, le ministre Di Moro a fait des révélations.
Il est possible qu'il y ait eu une tentative similaire en Belgique, mais on sait rien.
Du Brabant,
en Belgique,
ça a été défendu.
Au Luxembourg, en Allemagne.
Ça a été défendu.
Et les gens qui ne veulent pas voir clair, quand on te dit que c'est des prédateurs, la tueur du Brabant, moi je dis que c'est une vaste blague. Je vais donner trois éléments qui vont pouvoir déjouer ça tout de suite. Le procureur de Nivelles disait que c'était des prédateurs et le martelait. En 1980, les mecs piquent des golfs. Les golfs, on les volait plus vite avec un couteau suisse qu'avec une clé. Les mecs n'ont jamais volé une voiture, ils ont toujours pris par carjacking. Ça prouve que ce n'est pas des mecs qui savent voler une voiture, c'est des militaires ou des flics, pour moi. C'est des mecs en tout cas qui ont une formation militaire, mais pas de voyous. Ils tuent les gens, des enfants. Je ne connais aucun braqueur qui rentre dans une grande surface et qui va aller poursuivre un gamin dans un rayon, comme à Alos, pour aller le tuer au bout du rayon. Le gosse, il était cagoulé, t'es masqué, il ne va pas te reconnaître, il a 9 ans, même moins, 7 ans, je crois. Et ils ont fait ça de manière systématique. Donc ils ont tué les gens. Un braqueur, il met des armes dans son flingue. Il met, pardon, des balles dans son flingue. pour répondre à une attaque. Si les flics arrivent, si le gérant sort son pétard, et là, oui, si on l'empêche de partir, mais le but, c'est aller prendre le fric, le temps le plus court possible, et puis partir. Les gars prennent tout leur temps, ils attendent la confrontation, ils butent, ils shootent, c'est vraiment l'envie de tuer et de faire peur. C'est... Déjà, ça, c'est un deuxième élément, qui ne colle pas avec le bandit.
De faire peur en tuant, en fait.
Oui, c'est ça. Le troisième élément, qui ne tient pas du tout la route, je connais aucun braqueur entre 1982 et 1985 va s'amuser à récolter tous les petits détails, hein, donc ton gilet pare-balles, une plaque de voiture, les chèques du Deleuze 1985 et celui de 82. Je vais tout mettre dans un sac et je vais déposer ça au fond du canal en disant voilà, vous avez tout ça permet de vous relier toutes les affaires entre elles. Bah, ça, excuse-moi, c'est le mec qui croit à ça, c'est vraiment, il faut vraiment être con quoi, vraiment con. Et je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui peuvent défendre encore cette thèse de prédateur. Des mecs qui étaient avec des fusils d'élite sur les toits des parkings et les gars arrivaient juste après, quoi, à 20h05, 20h10. Quoi. Les gars avaient une technique de tir qu'on appelle du practical shooting, qu'on n'enseigne pas chez les voyous, c'est une méthode militaire. Moi j'ai fait du practical shooting parce que j'ai des garde-corps, donc je reconnais cette technique-là. Voilà, donc quelque part, après, si tu t'intéresses à l'affaire, je prends René Hackin qui était un journaliste du soir, qui n'était pas du tout un conspirationniste, qui était un mec qui cherchait. La vérité.
C'était la CIA était sa piste de finale.
La CIA, et puis il y a plein de choses. On a des ogives nucléaires en Belgique. Hein. On est noyé de. À Mons, il n'y a que ça. Hein. Et alors, c'est un secret de Polichinelle, et on peut se demander si dans les années 80, est-ce qu'ils n'étaient pas capables de faire ça. Il y a une autre affaire. Il faut savoir, les Américains, sous Reagan, ils ont envoyé des armes au Santonis, par exemple, qui sont trouvées chez Pablo Escobar. Pablo Escobar était un agent de la CIA. Et il était utilisé par la CIA, et ça s'est prouvé. Donc, il renvoyait de la coke pour pouvoir acheter des armes, et on a organisé un trafic organisé par la CIA de cocaïne aux États-Unis.
Escobar, je pense pas, mais c'était Noriega, par contre.
Oui, mais Noriega, mais Pablo Escobar recevait les armes, soi-disant, qu'on devait donner aux santonistes, en fait. Et donc, quand ils se sont rendus compte qu'ils envoyaient des armes à ce mec-là, ils ont... D'abord, Noriega, ils l'ont décimé, ils l'ont mis en taule, alors que le mec était un agent double. Voilà, donc quelque part, c'est... Il y a une autre affaire que les gens connaissent peu. Les Américains ont peint des sous-marins aux couleurs des Russes pour faire peur dans les fjords norvégiens, pour que les journalistes créent une panique en disant on a des sous-marins russes qui viennent dans les fjords, qui viennent faire paniquer les gens. Et donc on a fait voter au Parlement des armes pour renforcer l'armement dans les fjords. Et en fait, les Américains s'est déclassifié. Ils disent en rigolant, mais non, ben on les a bien vus parce qu'on n'a pas nos sous-marins. Sauf que les militaires sont traduits en justice parce qu'on dit qu'ils ont pactisé que... Un pays qui n'est pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont passées quand même dans ces époques-là, entre 1980 et 85. Et pourquoi pas en Belgique, quoi.
Et le film s'inspire de ça, alors?
Alors le film, c'est en toile de fond. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'histoire d'un braqueur qui est manipulé. Et souvent, le grand banditisme a été utilisé. On parlait des frères Grigny, vous savez, il y en a eu d'autres qui ont servi au trafic d'armes, on parlait de Pasqua. Le sac était un nid de flics et de voyous et de mecs un peu louches et qui servait à remplir les missions des services secrets qu'on ne pouvait pas officialiser. D'ailleurs, c'est très facile d'engager un voyou pour tuer quelqu'un. Si ça, l'opération rate, ben on dira que c'est une histoire de banditisme. Mm. Et donc ça a existé.
Et ce sera encore possible pour un grand banditisme maintenant d'être manipulé,
ben évidemment. Ou même un groupe terroriste. Moi, je me dis parfois, il y a Daesh, mais au-dessus, c'est qui? Ça sert à qui? Ces gamins qui font se péter, qui viennent se faire péter, eux, sont endoctrinés comme dans une secte. Mais au-dessus, ça sert à qui? La guerre en Syrie, on oublie toujours un truc, hein. On dit que c'est une guerre de religion, mais c'est d'abord une guerre du gaz. Hein. C'est d'abord le fric à la base. Hein.
C'est long, 30 ans de rédemption, non?
Oui, c'est très long. Ouais. C'est un chemin de croix.
C'est un vrai.
Mais non, mais c'est long. Voilà. Après, j'aime pas le mot de rédemption. Moi, je parle de réconciliation. J'ai compris un jour que ça m'emmerdait d'être contre la société. Et je préférais être actif et faire partie de cette société. Et c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu es contre la société, tu n'avances pas. Être avec, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu peux participer à ce changement. Et quand tu fais un film et que tu fais réfléchir les gens, ou tu écris un bouquin, ou quand tu fais une conférence, ou quand tu... Ben, tu participes à cette société, en tout cas à son changement positif, hein, j'espère, en disant, voilà, ça ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne aujourd'hui? En tout cas, tu crées des questions, le film, c'est ça, c'est un polar et qui ouvre des questions et qui permet, j'espère, la réflexion sur certains sujets. Et ça, ça m'intéresse aujourd'hui.
C'est aussi, avant de terminer, c'est peut-être aussi, on en parlait tout à l'heure en hors antenne, c'est une des premières tentatives, à mon sens, je pense, de cinéma francophone belge, qui sont un peu plus populaires que le cinéma d'auteur strict. Ça rejoint, comme justement, José Giovanni, le cinéma Frenchy des années 70, qui était quand même super.
Ouais, ou les films de Rossi, mais les Flamands ont fait ça juste avant nous. Si on prend Roskam, il fait du film populaire, assumé comme tel, avec... Et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec Tueur, c'est-à-dire qu'il a pris l'histoire du trafic d'hormones, qui est une affaire politique en Flandre, dans laquelle il ne va pas aller mettre ses mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a ça en toile de fond, et puis on est dans le prisme d'un gamin qui a des problèmes amoureux, qui a des problèmes d'hormones, qui a des problèmes personnels, et on est dans cette petite histoire, dans une grande histoire, en fait. Et qui va le toucher, mais c'est intéressant d'avoir ce croisement de deux histoires. Et les Flamands ont compris qu'on pouvait faire du cinéma qui n'emmerde pas les gens. C'est-à-dire un cinéma où tu passes 1h30 de... Voilà, ça te distrait. C'est, moi, j'espère, pendant 1h30, je garantis que tu passes 1h30 de tension permanente. Et tu sors de là, tu n'auras pas une minute où je t'aurais lâché, quoi. Tu ne t'emmerderas pas. Et il y a d'autres films qui ont peut-être besoin de plus de réflexion, où on peut... Mais c'est peut-être plus un cinéma qui est plus adapté à des gens du cinéma, des gens qui sont éduqués au cinéma. Je dis toujours, c'est plus facile de lire Astérix que de lire Flaubert. Mais pour pouvoir lire Flaubert, il faut peut-être passer par Astérix. Et il y a une éducation à la lecture. Et c'est clair que le cinéma, c'est pareil. Alors, on ne propose au cinéma, on avait tendance à proposer, en tout cas en Wallonie, du cinéma élitiste. Et donc, si tu mets du Flaubert à l'affiche, il y aura très peu de gens qui vont aller le voir. Si tu mets du Astérix, ben, on le voit, ça se vend beaucoup plus. Et c'est ça, en fait. Alors, sans tomber non plus dans le... Moi, je n'aime pas le film d'action, le film, on va dire, populaire, prolétaire, vulgaire. Et moi, j'espère faire, revenir vers ce cinéma Melville, ou comme Roskam, faire un cinéma qui est populaire, mais qui n'est pas pour autant déméritant. Comme si, Villeneuve fait ça, en fait. Villeneuve fait du cinéma grand public, mais avec quand même un travers.
Le prochain, c'est Blade Runner en Wallonie, alors, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Mais ce sera les Flamands nous envahissent, alors c'est ça, c'est une fiction extraterrestre.
Pour la bande-annonce, par exemple, Bruxelles, on a rarement filmé Bruxelles comme ça, par exemple.
Ouais, c'était une volonté dès le scénario de j'écris Bruxelles, quoi. Les lieux étaient, pour moi, on a une ville qui est géniale en termes de décor. Charleroi aussi. On a Verviers, la prison de Verviers, la prison. C'est des lieux qui sont la ville de Bruxelles, quand tu la filmes de nuit avec toutes ces lampes, si tu fais une pleine ouverture, ça fait des flairs incroyables. C'est très excitant. Je ne suis pas le seul à le faire. Il y avait Black, le film flamand, qui avait fait.
Marco Laguna aussi.
Oui, aussi. Ouais. Voilà, on est, je pense que c'est filmer ce qu'on a, essayer de magnifier ce qu'on a, et de se dire, voilà, notre terrain de jeu, il est là, et qu'est-ce que je peux faire avec, quoi. Et je trouve qu'il y a... pas toujours rêver à des décors américains. On a des super chouettes trucs ici, quoi. Et tu peux... Moi, je trouve que c'est très excitant. Enfin, on a des ciels incroyables, on a une lumière qui est très chouette. Alors, c'est sûr, on fera jamais des films avec une lumière comme à Los Angeles. Mais il faut tirer parti de ça pour en faire quelque chose d'autre. Et puis, on a des histoires croustillantes en Belgique. Et ça, c'est vrai qu'il faut pas aller en Sicile. Ici, on a quand même assassiné un premier ministre... un ministre patron de socialiste, André Kohl, on a les TCC, les tueries du Brabant, l'enlèvement de Van den Boudens, on a eu l'assassinat de Patrice Lumumba, enfin c'est des trucs quand même belges, quoi. C'est une petite histoire belge. Et t'as pas besoin d'aller très loin pour...
Une petite histoire belge.
Est-ce que c'est pas 75% des titres sur le film en France, quoi, une petite histoire belge?
Si, c'est ça, mais quelque part, je trouve les Français, ça les excite parce que c'est un peu comme l'affaire Dutroux. Ils ont trouvé ça, ils sont passionnés par l'affaire Dutroux, mais l'affaire Outreau, on en a moins parlé, parce que ça se passe ailleurs, quoi. Et quand ça, les merdes des autres, ça les intéresse plus, quoi, évidemment. Et chez nous, on... Et donc, notre histoire des tueries du Brabant, ça les excite, parce que... Mais ils ont eu le sac, hein. Ils ont eu la même chose avec Pasqua et d'autres. Ils ont eu d'autres histoires un peu similaires. Mais les nôtres, évidemment, sont plus croustillantes, ça se passe ailleurs, quoi. C'est encore chez les Belges. Mais bon, voilà, moi, je trouve qu'en même temps, c'est une manière de raconter la Belgique. On a quand même un mode de vie, une histoire riche et intéressante et qui permet, voilà, même nos histoires de ce qu'on appelle les années de plomb, ben on peut en faire peut-être de l'or.
L'alchimiste, voilà. Pas le quoi, non.
L'alchimiste François Troukens, merci beaucoup d'avoir
merci François
d'être venu ici à Bruges pour ce Focus Broadcast. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude,
en tout cas avant cette la fin de l'année, hein,
de manière un peu erratique. Mais
voilà.
En tout cas, merci beaucoup et puis à la fois prochaine.
Ciao. Merci beaucoup.
Ciao.